les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Trapéziste, dressage, dompteur, tigre, chimpanzé, clown, pas de doute, nous allons pénétrer cette nuit dans un cirque. Traditionnellement, lorsque l'on parle du cirque, c'est en évoquant d'une part le passé, les vieux cirques de notre enfance, comme si magiquement toutes les enfances dataient de la même période, et l'avenir, d'autre part, qui passait peut-être, par les écoles du cirque, ou par un office national du cirque. En tout cas, le problème se posait ainsi le 18 novembre 1967 sur France Culture. Voici une émission de Claude Dufresne, présentation Jean de Sailly, réalisation Claude Dupont.
Quand de très loin ils lui font signe, ô cirque, mon ami, nul ne résiste à ton appel. Tu es la sirène et le mirage, tu es l'aventure et l'évasion. Tu es le péché et le plaisir, tu es la revanche prise sur la monotonie des jours. Tu es la lumière qui s'allume dans les ténèbres de la vie quotidienne. Tu es l'archange terrassant le dragon de l'ennui. Quand tu parais sous tes haillons de gloire, la pluie cesse de pleurer sur le cœur de la ville. Le temps devient ton complice. Il suspend son cours et ouvre sous tes pas les portes de la féerie. Alors, de danse en cabriole, de pirouettes en grimaces, le plus court chemin qui mène à l'oubli passe sous ton chapiteau. Le bonheur tient à un fil, celui où perchent tes funambules et tes acrobates. Pendant toute une nuit, tu sèmeras sur les toits de la ville le grain de l'illusion.
Des poids, ronds au carré, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises, par les villages sans église, et les enfants s'en vont devant. Les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin ils lui font signe.
Quand de très loin tu me fais signe, je reviens sur mes pas de jadis. Je sens sur mes lèvres la saveur de mes jeunes années. Oh, cirque, mon ami. Oh, cirque, mon ami. Mon cœur retrouve ses battements oubliés, ses émotions folles, ses courses éperdues qui sont du domaine mystérieux de l'enfance. Je n'avais plus le droit de hanter les lieux perdus de mon enfance, mais pour un instant, tu as soulevé le linceul de l'oubli et je suis entré avec toi dans la ronde de la lumière.
France Culture vous propose Les leçons du cirque, évoquées par Claude Dufresne, réalisées par Claude Dupont et présentées par Jean de Sailly.
comment tout cela a-t-il commencé? Et d'abord, l'aventure du cirque a-t-elle un commencement? Oh, cirque, mon ami, n'es-tu pas né avec l'homme lui-même? N'étais-tu pas son autre face, l'envers de ce décor ordonnancé où il se plaît à vivre? Mais l'homme nouveau-né d'hier ne savait pas qu'il te portait en lui. C'est peu à peu qu'il t'a trouvé. Quand il eut pris conscience de ton existence, il est allé se promener du côté du Pont Neuf ou du Forum, et il a montré ses petits talents de société. Il s'est mis à jongler, à dresser un singe, à faire vibrer un lion au son de sa voix, et d'autres hommes se sont mis à regarder celui qui savait faire toutes ces choses, et leur admiration naïve fut ton premier quartier de noblesse. L'homme venait de t'inventer, cirque, mon ami, et il ne s'en était même pas aperçu. Mais il faut bien, n'est-ce pas, mettre de l'ordre dans la chronologie.
Je m'appelle Philippe Astley. Je revendique l'honneur d'avoir créé le premier cirque digne de ce nom. C'était en 1779 à Londres. En quelques années, j'étais devenu aussi populaire que le Lord Mayor. C'est alors que j'ai eu une étrange idée. J'ai voulu conquérir la France. Mais la France est décidément un curieux pays. C'est elle qui m'a conquis. En 1782, j'installais Faubourg du Temple, le premier cirque parisien. Obligé de regagner l'Angleterre à cause de l'attitude regrettable de Napoléon, je revins en France à la Restauration. J'aimais tellement vivre en France que j'y suis mort et enterré, ce qui est une manière définitive de demeurer dans un pays.
Je ne suis pas du tout d'accord avec le signor Astley, mais que le vrai créateur du cirque moderne, c'est moi, Luigi Chiarini. Dès 1580, à la Foire Saint-Laurent, j'avais mon établissement.
Votre établissement, Mr. Chiarini, disons que vous étiez danseur de cordes et montreur de marionnettes, saltimbanque, voilà ce que vous étiez.
Parfaitement, signor Astley, saltimbanque, et j'en suis fier, parce que c'est même moi qui ai popularisé les mots. Depuis le Chiarini, on dit que les gens du cirque sont des banquistes, ou des saltimbanques, si vous voulez. Bien longtemps avant vous, mes descendants étaient installés au boulevard du Temple.
Dans une baraque en planche, où ils rivalisaient de grimaces avec leurs singes. Ça n'était pas du spectacle, c'était de la bouffonnerie, Mr. Chiarini.
Si vous voulez, signor Astley. Mais bouffons pendant 3 siècles, qui des rires alors nous avons sur la conscience.
Permettez-moi, messieurs, de vous mettre d'accord. Ce n'est pas Monsieur Astley, ni vous non plus, Monsieur Chiarini, qui êtes les fondateurs du cirque moderne.
Mais qui donc est-ce?
Moi, messieurs. Tarquin l'Ancien, 5e roi de Rome et fondateur 600 ans avant Jésus-Christ, du Circus Maximus, le plus grand établissement de tous les temps.
Le plus grand, vraiment. Plus grand que mon amphithéâtre.
150 000 spectateurs. Une arène de 625 mètres de diamètre.
Ma santa madonna, qu'est-ce que vous avez dû faire comme recette, alors?
Le spectacle était gratuit, messieurs.
Ah. Gratuit? Vous étiez donc un amateur?
Oui, oui, en quelque sorte. Mes fonctions royales m'interdisaient de faire des bénéfices. Mais ceci n'empêchait point que mon cirque offrait un spectacle complet. Dressage de fauves, prouesse équestre, parade comique, rien ne manquait. Et tout cela dans une mise en scène grandiose, avec une figuration qui se renouvelait constamment.
Pourquoi qui se renouvelait?
Eh bien, après chaque représentation, une 20aine de pitres restaient sur le sable de l'arène, les reins brisés. Et 100aine de gladiateurs ne se sortaient pas des mâchoires des fauves.
Astley, mais comment voulez-vous rivaliser avec un directeur qui dispose de tels moyens?
Chiarini m'a dit, au cirque, qu'il faut toujours considérer la fin. Comment s'est terminée votre aventure directoriale, Mr. Tarquin?
J'ai péri de mort violente, et pas un seul spectateur n'a escorté mes funérailles. Le public est ingrat.
Astley, Chiarini, Tarquin l'Ancien, qu'importe au fond le nom de celui qui, le premier, enferma l'aventure du cirque sous un chapiteau pour l'offrir en pâture aux foules émerveillées. Ce qui compte le plus dans cette rencontre, entre le cirque et le public, c'est le coup de foudre, c'est la complicité subite. Et quand le public frémit, qu'il rit ou qu'il a peur, c'est en fait un dialogue intime qu'il poursuit avec les gens de la piste. Mais aujourd'hui, l'aventure du cirque n'est plus qu'elle était au temps d'Astley, n'est-ce pas, Jean-Richard?
Le cirque devient une espèce, hélas, une espèce d'art désuet. On peut même plus dire réservé aux enfants, parce que j'ai l'impression que les enfants ont dépassé le stade du cirque de beaucoup, et qu'ils préfèrent James Bond au cirque. Or, la seule façon de sauver le cirque, c'est finalement, contrairement à d'autres genres de spectacles qui demandent d'aller vers l'avant, je crois que la seule façon de sauver le cirque, c'est de revenir aux traditions, au brandebourg, au flonflon, à la musique du cirque, et puis essayer de le remonter. Je crois qu'il y a des... Moi, j'y crois dur comme fer, personnellement. Mais je crois qu'il y a énormément de travail à faire, et que c'est pas en restant les bras dans les poches qu'on y arrivera.
Seulement, voilà, on ne devient pas directeur de cirque comme on devient directeur de théâtre, directeur de banque ou directeur de ministère. On est directeur de cirque. Pour les uns, c'est une question de vocation. Pour les autres, la plupart, un mystère de l'atavisme. Le monde du cirque, farouchement replié sur lui-même, vit depuis 2 siècles du souffle de quelques tribus. Et les mêmes noms reviennent sans cesse à nos oreilles. Les Franconi, les Loyal, les Guillaume, les Hondes, les Rancy, autant de nobles maisons qui ont écrit avec leur sang et leur courage l'histoire du cirque.
Approchez, approchez, citoyennes et citoyens, et oyez bien ceci. Aujourd'hui, 9 thermidor en 10, le citoyen Franconi donnera la fête civique. Cette fête sera célébrée avec toute la pompe dont elle est susceptible et terminée par l'entrée d'un char traîné par 4 coursiers richement harnachés, précédé de plusieurs exercices d'équitation, danse sur les chevaux et entr'actes très amusants.
Qui était cet Antonio Franconi, fondateur de la plus illustre dynastie du cirque? Son aventure a bien failli se terminer avant même d'avoir commencé. Un jour de 1760, il a 23 ans, un patricien d'Udine, sa ville natale, l'insulte. Antonio Franconi provoque en duel et tue son noble adversaire. Il doit fuir son pays. Le voici à Lyon. Mais la famille du patricien a de grandes influences, même sur le sol français, Antonio est pourchassé. Un matin, à bout de force, poursuivi par la police du roi, il entre au hasard dans la baraque d'une ménagerie foraine. La fille du propriétaire est en train de donner à manger à un lion dont elle a entrepris le dressage.
Mon Dieu, monsieur, vous avez fait peur à Arsène.
Il semble de taille à se défendre.
Mais d'abord, qui êtes-vous, monsieur, pour entrer ainsi chez les gens que vous ne connaissez pas?
J'ai des motifs personnels et puissants. La maréchaussée.
Vous avez fait quelque chose de mal?
J'ai tué un homme.
Oh.
En duel.
Ah. Les gendarmes du roi.
Où puis-je me cacher?
Je ne vois pas. Monsieur, vous êtes perdu.
Oh, j'ai une idée. Le lion.
Arsène?
Oui.
Mais il ne vous connaît pas. Il va vous dévorer.
Entre les fers de la prison et l'écrou d'Arsène, mon choix est fait.
C'est ainsi qu'Antonio Franconi devient dompteur malgré lui. Il y prend goût. Quelques années plus tard, le voici à Paris, sur le boulevard du crime, à l'assaut du public, c'est-à-dire de la gloire.
Bonnes gens, nous allons vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Ce que vos rêves eux-mêmes n'ont pas osé imaginer. L'univers est à votre porte. Regardez, ces singes viennent des Amériques. Ces lions d'Abyssinie. Ces chevaux d'Arabie. Et moi-même qui vous parle, je ne sais pas au juste où je suis né.
Paris a toujours été sensible à ceux qui lui parlent le langage du merveilleux. Les mots du saltimbanque tintent à ses oreilles comme des pièces d'or. Antonio fait fortune. Sous la Révolution, c'est lui qui dirige le cirque d'Astley. François a baptisé son établissement « Cirque Olympique ». Le succès lui emboîte le pas. Mais en s'étant troublé, le succès lui-même est suspect. Un soir, un commissaire de police et 2 gardes nationaux viennent l'arrêter. Mais c'est mal connaître Antonio que de supposer qu'il va se laisser prendre. Il s'est barricadé au-dessus de son bureau. Un pistolet dans chaque main, il apparaît à la fenêtre et un dialogue héroïque-comique se déroule entre l'homme du cirque et les envoyés de la convention.
Citoyen Franconi, vous êtes en état d'arrestation. Je vous somme de me suivre.
Venez me chercher.
Je ne peux pas vous me tirer dessus.
J'ai bien l'intention de continuer. Et je vous préviens qu'avec mon pistolet, je mouche une chandelle à 30 pas.
Vous voulez tout de même pas la prétention de venir à bout de toute la police de Paris?
Non, mais j'ai celle d'abattre les 12 premiers argousins qui se présenteront. S'il vous plaît d'ouvrir la liste.
Misérable! Il ose tirer sur les représentants de la convention. Replions-nous. Mais nous reviendrons, citoyen Franconi. Nous reviendrons, et alors vous verrez.
Ils reviennent en effet le lendemain. Toute une compagnie de gardes nationaux. Mais Franconi ne les a pas attendus. Cet homme étonnant n'est d'ailleurs pas destiné à mourir sous le couperet du bourreau. Il reviendra bientôt et son cirque olympique fera les délices de l'Empire et de la Restauration. Il ne consentira à quitter la piste et l'existence que presque centenaire, en 1836. Il peut alors s'en aller, le vieil Antonio Franconi. Des dizaines et des dizaines de garçons et de filles parmi les gens du voyage sentent couler dans leurs veines un peu de son sang impétueux. Et tous, écuyers, voltigeurs, clowns, dompteurs, tous sont au service du même maître, le cirque.
Le cirque a posé son chapeau pointu sur la place publique. S'en échappe les grelots de rire mêlé de musique. Un fouet claque quand les chevaux font leurs petits pas excentriques sous l'œil endormi des badauds qui attendent que les clowns applique. Les clowns, les claques, les cris, les pleurs, la petite flaque du projecteur qui sait tout le programme par cœur. Dehors, il y a des au sourire mélancolique, des mômes qui n'ont pas eu d'argent et font le cirque autour du cirque.
J'ai évoqué la dynastie des Franconi et son fondateur Antonio Ier. J'aurais pu tout aussi bien vous parler des Ranci, une autre dynastie fameuse. Mais je préfère laisser ce soin à son descendant direct, Henri Ranci.
La tradition de la famille Ranci est surtout la cavalerie. Et je dois ceci à mon grand-père, mon père, qui m'ont appris à dresser, présenter les chevaux, monter à cheval. Et j'ai transmis ce talent, je le crois, à ma fille qui maintenant me succède.
À l'occasion de l'inauguration du canal de Suez, Théodore Ranci fut demandé pour présenter ses spectacles à Rouen. La première eut lieu en présence de l'impératrice Eugénie, de Ferdinand de Lesseps et du Khedive Kemal. Ce fut la consécration du cirque Ranci. Il en ramena bien entendu richesse, gloire et il nous reste un grand souvenir, une montre, perles et brillants, souvenir du Khedive de Kemal.
Cirque, mon ami, ton destin est celui des errants. Pour t'aimer et te servir, il faut aller toujours plus loin. Aussi nomme-t-on gens du voyage ceux qui t'offrent leur vie. Du voyage, sans dire lequel. du voyage sans préciser vers quel continent il emporte les fils de la lumière et de l'aventure. C'est qu'en vérité, c'est un voyage qui ne finit jamais. Le kaléidoscope du cirque déroule ses images, et ceux qui les animent savent bien que le terme de ce voyage, c'est celui de leur propre destin. Et dans chaque village de France ou de Navarre, on guette l'arrivée de Pindare ou celle d'Amar, un peu comme on attendrait le Père Noël. Mais tout est paradoxe dans ton royaume, ô cirque, mon ami. Et ces éternels pèlerins de l'aventure, ces nomades du mirage, ne connaissent pas de plus grand bonheur que lorsqu'ils peuvent planter le pieu de leur chapiteau dans une terre qui leur appartient. Un matin d'hiver, Théodore Rancy débarque à Rouen. Il ne doit y donner qu'une seule représentation et repartir sitôt qu'elle sera terminée.
Dès la fin de la représentation, on remballe. Nous avons 20 lieues à faire d'ici minuit.
On aurait bien pu coucher à Rouen, mes chevaux n'aiment pas voyager la nuit. Ils ont peur des étoiles.
Je regrette, Manola, ils s'y feront. Beppo ?
Le patron ?
Tu donneras un coup de main pour qu'on aille plus vite.
Mais entre nous, patron, pourquoi vous êtes si pressé de quitter Rouen ? Des créanciers ?
À toi, Beppo, je peux bien dire la vérité. Tu te souviens l'année dernière, quand nous sommes venus à Rouen, cette femme mariée ?
Oh, oui, celle qui vous a siégé après chaque représentation.
Eh, je ne tiens pas à la retrouver.
Théodore, écoute, voilà une jeune personne qui voudrait apprendre le métier d'écuyère et qui sollicite tes leçons. Encore une que le cirque aura rendu folle.
Et ne sommes-nous pas tous les fous du cirque ? C'est vous, mademoiselle, qui voulez apprendre le dressage des chevaux ?
Ah, c'est mon plus cher désir, monsieur. Je monte déjà sans selle et sans bride, et je sais franchir les plus hauts obstacles.
Comment vous appelle-t-on, mademoiselle ?
Thérèse. Je sais que mon désir doit vous paraître insensé.
Et c'est avec les désirs insensés qu'on bâtit les grandes cathédrales. Thérèse, je vous engage. Nous partons aussitôt après la représentation.
Oh, hélas, monsieur, je ne peux quitter Rouen. J'ai une vieille mère qui n'a que moi et...
Alors, c'est moi qui reste. Désormais, je ne saurais vivre loin de vous. Mes amis, nous sommes arrivés au bout du voyage. Nous plantons notre chapiteau à Rouen. Manola, tes chevaux n'auront plus peur des étoiles. Quant à moi... Les étoiles, je les compterai dans tes yeux, Thérèse.
Il arrive ainsi que ton histoire, cirque, mon ami, rencontre sur son chemin une histoire d'amour, et qu'elle s'en accommode fort bien. Mais il est grand temps, je crois, d'évoquer celui qui est à la fois le pantin glorieux et le roi sans couronne de la fête, Sa Majesté le Clown. Oh, cirque, mon ami. Après que les écuyers savants t'eurent apporté ton premier quartier de noblesse, les clowns t'apportèrent le second. Leurs pirouettes, leurs grimaces, leurs mots à l'envers, après tout, c'est la vie. La vie regardée par l'autre bout de la lorgnette. La vie soudain descendue du piédestal où notre complaisance de nous-mêmes l'a hissée. Vous qui écoutez ce récit, ne vous est-il jamais venu au milieu d'une docte assemblée l'idée que tous ceux qui vous entourèrent semblaient à des clowns? Imaginez le président directeur général avec un gros nez vert, le recteur avec une perruque flamboyante. Supposez que le pantalon du prince demeure en place grâce à une énorme pince à linge. Qui dira l'envie que nous avons certains jours de transformer en fête foraine le décor de notre respectabilité et de tirer à boulet rouge sur les solennelles têtes à massacre de nos supérieurs hiérarchiques? Cette irrévérence qui nous est interdite, les clowns s'y livrent pour nous. Ils nous soulagent du fardeau de nos impuissances et nous font toucher du bout du rire la vanité des honneurs terrestres. Les clowns furent d'abord à cheval. Ils n'avaient pas encore découvert le sommet de leur art poétique, le coup de pied au postérieur. Le premier clown que nous vîmes à Paris, avec Astley, aux environs de 1785, s'appelait Billy Saunders. Si son nom a survécu dans notre mémoire infidèle, c'est qu'il inventa une phrase magique. « Voulez-vous jouer avec moi ?» Cette phrase, 140 ans plus tard, un jeune journaliste venu de Lyon, la patrie de Guignol, la reprenait à son compte et, avec elle, composait une manière de petit chef-d'œuvre. La première pièce de Marcel Achard empruntait au cirque ses héros. Marcel Achard, qui ne savait pas encore qu'il serait un jour académicien, prêtait lui-même sa personnalité au rôle du clown.
Mais messieurs, je vous ai giflé.
Vous êtes sourd?
Mais messieurs, je vous ai giflé. Je ne crois pas. Sur la tête de ma mère, je le jure.
Vous m'étonnez,
cet enfant. Rappelez-vous, vous avez dit quelque chose. Je vous ai traité d'idiot.
Vous m'avez traité d'idiot?
Je vous ai traité d'idiot et je vous ai giflé.
Ça n'est pas possible. Si vous m'aviez traité d'idiot, c'était à moi de vous gifler.
Je savais. Alors je commençais.
Ça n'est pas possible.
Pourquoi?
Vous ne mentez jamais.
Et alors?
Alors vous n'avez pas pu dire que j'étais idiot.
Mais vous êtes idiot.
Mais je ne crois pas.
Vous ne croyez pas que vous êtes idiot?
Je vous jure que je ne crois pas. D'abord, admettons que vous m'ayez giflé.
Mais puisque je...
Admettons. Alors?
Comment alors?
Et qu'est-ce que ça peut faire?
Comment ça peut faire? Mais vous vous battre!
Je dois me battre?
Et vous battre, vous ne pouvez pas accepter ça! Il faut se battre à l'épée ou au pistolet jusqu'à ce que l'un d'entre nous meure! Il y a quelqu'un de trop ici!
C'est vous, allez-vous-en!
Il faut vous battre!
Comment? Vous me traitez d'idiot, vous me giflez! Et il faut que je me batte?
Il faut prendre des témoins!
Comment? Vous m'avez giflé, personne ne l'a vu! Et il faut que je le raconte à tout le monde?
Il faut vous battre!
Je ne veux pas me battre!
Et pourquoi vous ne voulez pas vous battre?
Je n'aime pas.
Et pourquoi vous n'aimez pas?
Parce que je suis le moins fort.
Et pourquoi vous êtes le moins fort?
Parce que je ne me bats jamais.
Et pourquoi vous ne vous battez jamais?
Parce que je suis le moins fort.
Un jour, au début du XIXe siècle, timidement, les clowns descendent de leurs chevaux. Mais ils n'osent pas encore marcher sur la terre ferme. Sans doute craignaient-ils que la ressemblance entre eux et des personnages réels soit trop criante de vérité. Alors ils se suspendent dans l'espace, sur des fils de fer, et trouvent le moyen de faire rire en risquant leur vie. C'est un personnage étonnant, du nom de Grimaldi, qui ouvre la voie aux clowns des temps modernes. Mais il faut croire que ces exercices ne sont pas du goût de tout le monde. Un soir de 1820, pendant la représentation du cirque olympique, Laurent Franconi, le directeur, prévient Grimaldi qu'un commissaire de police l'attend.
Vous êtes le sieur Grimaldi?
Madonna, le sieur? On ne m'a jamais appelé ainsi. Merci, monsieur le commissaire, de traiter avec tant de respect un humble clown.
Oh, cessez d'ironiser. Ce que j'ai à vous dire est grave, très grave.
Alors, attendez un instant. Comme ceci, est-ce que cela vous convient?
Mais, que voulez-vous dire? Je ne comprends rien. Et pourquoi prenez-vous cette mine absurde?
Vous me dites que vous avez à m'entretenir d'une affaire grave. Je prends honneur des circonstances.
Celui-ci vous convient-il?
Oui, encore une fois, cessez de vous moquer, ou il vous en cuira. Vous avez joué ce soir une pantomime, le prince de Perlimpinpin.
En effet, elle n'a pas eu la grâce de vous plaire.
Mais il ne s'agit pas de cela. Dans cette pantomime, vous portez au prince plusieurs coups de pied au...
Au derrière, monsieur le commissaire, n'ayons pas peur des mots. Et alors, c'est ce brave prince de Perlimpinpin dont vous entendez protéger l'honneur?
Je vous observe depuis plusieurs jours. Il y a des allusions dans vos coups de pied.
Tiens! Voilà que je donne des coups de pied à allusion maintenant. Monsieur Franconi! Monsieur Franconi! Il faut m'augmenter, je donne des coups de pied à allusion!
Est-il possible que vous soyez sérieux un instant?
Je le suis davantage que vous ne l'êtes. Le plus clown de nous deux n'est pas celui qu'on pense. Mmh. Des coups de pied au derrière à allusion? Où vous apprend-on à les reconnaître, monsieur le commissaire? Dans l'antichambre du comte d'Artois ou dans celle de monsieur de Villèle?
Monsieur Grimaldi, prenez garde. Votre langue peut vous ruiner et vous conduire en prison.
Me ruiner? Je ne suis riche que de haillons et de postiches. Quant à m'appréhender, vous ne connaissez même pas mon vrai visage. Si vous touchez à ma défroque, elle vous restera dans les mains. Si vous voulez m'attacher, il vous faudra me poursuivre jusque sur mon fil, tout en haut du chapiteau. Je m'évanouirai dans les nues avant que votre main ait pu saisir mon col à manger de la tarte. Je ne suis pas un homme, je suis un mirage.
Mirage ou pas, mes sergents arriveront bien à se saisir de votre personne et à vous jeter dans un cachot.
Et alors? Il y aura bien une lucarne dans ce cachot. Par cette lucarne, je regarderai les étoiles. Et quand elles me feront signe, je me glisserai à travers les barreaux de la lucarne. Il y aura bien un trou de serrure dans la porte de ce cachot. Je m'évaderai par le trou de la serrure. Il y aura bien une cheminée dans votre prison. Par elle, je grimperai jusqu'au ciel.
Vingt ans après Grimaldi, il y a un autre clown fameux dont le nom est toujours respecté chez les gens du voyage. Il s'appelle Jean-Baptiste Auriol, et cet homme étonnant défie les lois de la pesanteur et de la gravité. On dirait que ce qui retient les autres hommes prisonniers de la Terre n'empêche pas Auriol de bondir ni de voler. Il a des ailes, ce clown de génie.
Pas de génie. Une question de mollet, messieurs et mesdames. Rien que cela. J'avais un mollet qui visait juste. Entre le fil de fer et lui, c'était une union passionnée, à la vie, à la mort. Jamais formule ne fut aussi juste. Car si la corde lisse était ma vie, elle eût été ma mort tout aussi facilement si je l'avais manquée. À quoi tiennent les choses? Une affaire de pouces. Entre la gloire et la mort, il n'y avait qu'un pouce d'écart. Cela m'empêchait d'être trop fier. Cela me ramenait à la modestie qui est le pain quotidien des gens du cirque. Malheur à celui qui cesse d'être modeste. La folie des hauteurs, la griserie du vide sont nos plus redoutables ennemis. Moi-même, le grand Auriol, Auriol l'oiseau, un jour j'ai compris que je n'avais plus la force de grimper jusqu'en haut du mât. Alors j'ai mis un peu plus de couleur sur mon visage, j'ai abandonné mon costume de lumière pour la défroque de l'Auguste et j'ai continué à faire rire. En trichant. C'est cela qui est triste dans la vieillesse du clown. C'est qu'il triche.
Sa vieillesse, le clown y songe-t-il souvent, Pipo?
Ma foi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas connu beaucoup de clowns qui se sont retirés vraiment de la piste. Parce que le trois quarts des clowns, ils meurent dans la piste.
Bien longtemps après que le cirque olympique eut clos ses portes, un cri retentit au pied de la butte Montmartre. Un cri de ralliement qui rameute la foule parisienne. Boum, boum! Il est poussé par un curieux petit bonhomme, agile comme un singe qui sait tout faire sur la piste du cirque. Et parce qu'il sait tout faire, il choisit d'être clown. Il s'appelle Geronimo Medrano. Il est né à Madrid. Le destin a décidé que cet Espagnol viendrait boulevard Rochechouart pour y cueillir la gloire. Mais avant qu'un cirque porte son nom, il va d'abord faire la fortune de son directeur. Le samedi 9 août 1873, un certain Fernando édifie une baraque en planches à laquelle il donne le nom de cirque. Fernando a un mérite. Il a failli payer de sa vie l'honneur d'entrer dans ta famille, cirque, mon ami. Les baladins du cirque Gautier ont arrêté ce jour-là leur manège sur la grande place de Courtrai, en Belgique. Ferdinand, le fils du boucher, n'a pas quitté les banquistes des yeux ni du cœur. La nuit même, sa décision est prise. Il ne succédera pas à son père à l'étal. Mais sa décision passe par le tiroir caisse. Il faut bien quelques sous pour faire le tour du monde.
God fortune, un voleur. Chenapan, tu n'iras pas loin.
Papa, ne tire pas, c'est moi.
Ferdinand, qu'est-ce que tu fais avec ta lime devant la caisse?
Tu vois, un petit emprunt.
Tu voles ton père, petit misérable.
20 francs, papa. 20 francs. Je t'aurais bien coûté 20 francs jusqu'à ma majorité.
Tu m'écouteras bien davantage, carnement.
Mais non, justement, car je m'en vais.
Quoi? Tu t'en vas? À ton âge, tu cours derrière une gueuse?
Non, derrière le cirque. Il part à l'aube. Je vais le rejoindre. Je ne peux pas le laisser partir sans moi, tu comprends? Je serais trop malheureux.
Mais imbécile, la boucherie, qui va me débiter mes côtelettes?
Oh, tu engageras un commis? Moi, je ne peux plus être boucher, puisque le cirque existe.
Oh, mon fils, un saltimbanque! Je ne sais pas entendre une telle chose, moi! J'aime mieux te tuer que de te voir déshonorer!
Non, papa!
Tiens, et le clou ne part pas!
Papa!
Et le pistolet, voilà!
La main du boucher tremblait heureusement, et 30 ans plus tard, sur le boulevard de Rochechouart, Ferdinand Baert est devenu Fernando. Il ouvre son propre cirque, ce qui témoigne d'un certain courage, car en ce temps-là, entre le cirque d'hiver des Filles du Calvaire et le cirque d'été des Champs-Élysées, les Parisiens ont l'embarras du plaisir. Mais Fernando va connaître la plus grande chance de sa vie en la personne de Geronimo Medrano. Chaque soir, en entrant en piste, il lance son fameux « boum boum ». Comme un écho fidèle, le public répond « boum boum » et le tour de passe-passe est joué.
Écoute, Medrano, ils t'appellent.
Je sais, ils sont insatiables. Ils ne comprennent pas que je me tue à les faire rire.
Il faut y retourner, Medrano. Ils veulent encore boum boum.
Et si boum boum se rompt les os, hein? Si boum boum n'a plus un cœur dans sa poitrine, mais une machine brûlante, ils s'en fichent?
Ah, c'est notre loi, Medrano. Je te souhaite de mourir en piste plutôt que dans ton lit. Te vois-tu mourant dans ton lit?
Ah non, Fernando, non, non. T'as raison, mais... Et je demande pardon au cirque pour cette défaillance. Allez, j'y retourne.
Regarde, regarde au premier rang. Les plus jolies femmes de Paris, c'est pour toi qu'elles viennent chaque soir. Elles t'aiment. Et pourtant, tu es affreux.
Mais elles m'aiment parce que je suis affreux. Si un jour j'ôtais devant l'une d'elles mon masque de couleur, elles s'enfuiraient en hurlant. Hein? Allez, je vais leur en donner pour leur beauté, moi. Belles comme des fleurs nouvellement écloses, qu'un souffle de printemps a fait épanouir... Vous êtes devant moi tout comme des roses. Que ne puis-je cueillir ?
Ne soyez pas surpris de ces vers qui sont de l'inspiration de Medrano. Pour être un clown, il faut surtout être un poète. N'étaient-ils pas des poètes, tous ces héros du rire dont les noms sonnent encore à nos oreilles avec un bruit de légende ? Little Teach, Footit et Chocolat, Antoinette et Baby, Grock, les Fratellini. Oh, cirque, mon ami, toi qui reflètes la vie avec tant de subtilité, tu sais bien que dans le destin des hommes, le rire n'est jamais qu'un entr'acte. Mais si l'homme de la rue frôle l'abîme sans le voir, l'homme du cirque, lui, connaît le nom du péril dont il a fait son compagnon. Chaque jour, il lui lance un nouveau défi. Et quand la peur se venge, combien d'affronts a-t-elle dû subir de cet homme intrépide qui grimpe jusqu'au sommet du chapiteau, comme un autre prendrait l'autobus pour aller à son bureau. La peur, cirque, mon ami, c'est le grand intérêt de tous ceux qui te servent. C'est le frisson où communient les prêtres de ton rite et les assistants. C'est le même sang qui, pendant l'exercice, unit celui qui risque sa vie et celui qui regarde. Les héros du cirque connaissent le poids de la peur. Mais le miracle, c'est que la foule le sent aussi sur sa poitrine. Pendant que tout là-haut, le trapéziste n'est plus qu'une tache de lumière qui va s'élancer dans le vide, la foule retient son souffle. Et cette minute de silence angoissé qu'elle observe, c'est sa façon à elle de rendre hommage. Tous ceux qui poussent un soupir de soulagement lorsque l'exercice de trapèze volant est terminé savent-ils qu'ils doivent leurs émotions à un jeune Toulousain du nom de Léotard. En 1859, au Cirque Napoléon, le futur cirque d'hiver, apparaît un tout jeune homme à l'œil sombre et décidé. Il manie un appareil compliqué. C'est un portique fait de deux trapèzes situés à chacune de ses extrémités. De Jean, le directeur du Cirque Napoléon, ne veut pas en croire ses yeux.
Que faites-vous donc, jeune homme, avec ces appareils compliqués ?
Eh bien, je saute de l'un à l'autre.
Comment cela, vous sautez ? Et par quel moyen ?
Par aucun autre moyen que mon adresse. Enfin, disons, si vous voulez, que je vole d'un trapèze à l'autre.
Au-dessus du vide ?
Au-dessus de quoi volent les oiseaux ?
Les oiseaux sont les oiseaux. Vous, vous êtes un homme. Ce que vous me racontez là est impossible.
Je vais le faire devant vous, sur le champ. Si je réussis, combien me donnerez-vous ?
Ce que vous voudrez.
500 francs par représentation.
Eh bien, tout à fait d'accord. Je ne risque rien. Vous vous romprez les os avant d'avoir touché mes premiers 25 louis.
De Jean déboursa 500 francs par jour, car Léotard réussit. Reprenant à son compte le vieux rêve d'Icare, il fut le premier homme à voler dans l'espace, ouvrant la voie à tant d'autres intrépides et entraînant aussi dans son sillage mortel tant de victimes. Par une curieuse ironie du sort, Léotard, lui, ne tomba pas au champ d'honneur du cirque. Cet homme oiseau mourut dans son lit, de la petite vérole. Depuis Léotard, ils ont été nombreux à régner sur toi, cirque, mon ami. de leur vol impérial, et nombreux aussi à orner les pages d'or de ton martyrologe. Que peut bien ressentir l'acrobate en train de grimper vers le ciel sans savoir jamais s'il en redescendra? C'est ce que nous avons demandé aux Gimini qui ont retrouvé les secrets intrépides d'Éclairance.
Les débuts ont été très difficiles, j'ai eu peur, très peur même, j'en rêvais la nuit. Et après c'est passé, cette période-là est passée, et pour moi c'est un travail quelconque, un travail comme j'allais faire, et je veux qu'il soit fait consciencieusement, et comment je dois dire moi, dans toute sécurité.
Je ne voudrais pas redescendre des cimes où nous ont menés tes héros, Cirque, mon ami, sans évoquer encore une histoire de vocation spontanée, telle que seule tu peux en provoquer. Une histoire incroyable et pourtant authentique. À la fin du siècle dernier, à Jérusalem, un cirque ambulant vient d'y donner quelques représentations. Il est dirigé par une femme, une Française, qu'on nomme la Belle Marie. La Belle Marie est voltigeuse et paye de sa jolie personne pour donner le frisson au public. Un soir, après la dernière représentation...
Patronne, il y a quelqu'un qui insiste pour vous parler.
Nous démontons, je n'ai pas de temps à perdre avec un admirateur.
Oh, ça m'étonnerait que celui-ci soit un admirateur, c'est un moine.
Un moine?
Oui, un moine. Si du moins la bile fait encore.
Je suis curieuse de savoir ce qu'il vient chercher ici.
Madame?
C'est à moi que vous voulez parler, mon père?
Oui, madame, je comprends tout ce que ma présence peut avoir d'insolite en ces lieux. J'ai suivi toutes vos représentations, j'ai regardé tous vos gestes et je pourrais, en fermant les yeux, raconter la merveilleuse audace avec laquelle vous défiez la mort.
Mon père, je suis très flattée que mon modeste talent ait su vous plaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un...
Ah oui, je sais, l'habit que je porte devrait me fermer la bouche. Mais quand j'ai appris que vous donniez votre dernière représentation ce soir, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire.
Mon père, il suffit. Je ne suis qu'une fille de cirque, mais j'ai le respect de la religion. Et entendre de telles déclarations de la part d'un homme qui...
Mais madame, madame, vous faites fausse route. L'admiration que je vous porte ne s'arrête pas à votre personne, mais à travers elle, elle s'adresse au cirque. C'est le cirque que vous m'avez appris depuis une semaine. C'est le cirque dont je suis ivre. Et ce n'est pas de vous.
Mais mon père, que voulez-vous que je fasse de vous? Mon cirque n'a pas besoin d'aumônier. Et puis un moine, ça n'est bon qu'à dire des pater et des ave, madame, sauf votre respect, bien entendu.
Madame, j'apprendrai votre art. Je grimperai sur le trapèze magique. Je m'élancerai dans le vide mortel.
Vous ferez tout ça avec votre habit?
Oh non, sans mon habit, ne vous moquez pas. J'ai découvert aujourd'hui ma véritable vocation. Grâce à vous, grâce à votre cirque, je n'ai plus le droit de porter ma robe un jour de plus.
Ainsi, ayant jeté sa robe aux orties, Casti commença une carrière glorieuse parmi les trapézistes. Et comme l'ex-moine avait le sens des biens temporels, il devint directeur de cirque et il épousa la Belle Marie. Mais n'es-tu pas, ô cirque, mon ami, le décor rêvé pour un conte de fées? Il faut bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi, puisque les hommes, parvenus au plus profond de leur âge, conserve pour toi des yeux d'enfant. N'est-ce pas, Maurice Garçon?
L'homme est puéril, instinctivement, et il retourne à la puérilité, si bien que c'est pour lui un délassement continuel que de pouvoir, dans le cirque, s'évader et assister à un spectacle qui n'est pas banal, qui est rempli de toutes sortes de choses, qui sème le mirage, si on veut, et qui, évidemment, surprend et qu'on applaudit avec beaucoup de joie. L'homme mûr, l'homme sensé, raisonnable, continue à rêver, rêve au cirque, exactement comme s'il était ailleurs et souvent sous l'influence de choses très diverses. Il s'évade de lui-même, il n'est plus lui-même, il est en quelque sorte un évadé qui vient se retrouver là, à sa source, mais une source naturelle et fort honnête.
Les archanges du trapèze volant sont les petits cousins des funambules. De temps à autre, au-dessus d'une rivière bouillonnante ou d'un précipice sans fond, on peut les voir encore, le balancier à la main, le sourire aux lèvres, qui arrachent à la foule des cris d'enthousiasme et de terreur. Ces funambules descendent en droite ligne des danseurs de cordes qui, déjà au Moyen-Âge, faisaient la joie des badauds du Pont-Neuf. Et si je vous parle des danseurs de cordes, c'est parce qu'entre tous, un portrait me revient à la mémoire, celui d'une très vieille dame, modeste et effacée, qui habitait à la fin du Second Empire un humble logis de Neuilly. On l'appelait Madame Sacchi, et plus personne ne se souvenait d'elle. Et pourtant, pour la voir danser sur une corde en haut des tours de Notre-Dame, tout Paris resta sans dormir une nuit entière. Napoléon lui-même, au soir de Wagram...
Je veux pour mes vainqueurs quelques heures de liesse. Je désire que la Sacchi vienne danser sur sa corde et que tous mes braves puissent constater qu'une jeune fille n'a rien à leur envier du point de vue du courage.
Quand au mois de janvier 1866, la très vieille Madame Sacchi quitta ce monde qu'elle avait survolé de son pas triomphant, tout ce qui demeurait de sa gloire s'échappa d'un tiroir. Quelques reconnaissances du monde piété. Les enfants du cirque sont aussi des cigales. Mais ce Second Empire qui voyait la fin d'une idole fut aussi pour le cirque un moment d'apogée. Dans l'euphorie de sa gaieté retrouvée, Paris découvrait soudain qu'elle était une grande ville et faisait en sorte de se pourvoir abondamment de lieux de plaisir. Bientôt, un musicien de génie du nom d'Offenbach allait orchestrer cette joie de vivre et l'entraîner dans une ronde échevelée. Mais en attendant qu'Offenbach installât son premier théâtre sur le carré Marigny, le Cirque des Champs-Élysées allait dresser son immense chapiteau de 6000 places. Conseillé par son demi-frère Morny, l'empereur Napoléon III a accordé lui-même l'autorisation à Louis de Jean et Victor Franconi, et Morny a ce commentaire réaliste.
Que les Parisiens aillent donc au Cirque des Champs-Élysées. Pendant ce temps, ils nous laissent faire le nôtre.
Et les Parisiens vont au Cirque des Champs-Élysées. La foule d'abord, puis les snobs. Pour les lions et les cocodesses, les smarteux et les dandys, il est très vite de bon ton de se faire voir dans une loge. On arrive vers 9h30, quand le spectacle est commencé, et l'on fait le plus de bruit possible pour se faire remarquer. On papote, on musarde, et l'on accueille chaque nouvelle arrivante avec des cris d'admiration. Et puis surtout, on jette des fleurs aux pieds des belles écuyères. Caroline Loyot, Elvira Guerra ou Adelina Price. Lorsqu'on parvient à enlever l'une d'entre elles, quel triomphe, mes seigneurs! Gramont Cadrousse, célèbre dandy de l'époque, a raconté quelques souvenirs pris sur le vif, et notamment celui de sa rencontre avec Caroline Loyot, un soir après la représentation.
Mademoiselle, sans doute suis-je indigne de vous adresser la parole.
À vous, monsieur le duc.
Hélas, je ne suis qu'un duc. Et vous êtes reine. Votre royaume est l'espace où vous emportent vos chevaux ailés. Seul Centaure serait justifié de se mettre à vos genoux.
Physiquement, je vous préfère à Centaure.
Ah, Eh bien, c'est déjà quelque chose. Et du coup, je m'enhardis jusqu'à m'approcher de votre étrier.
Je vous ferai remarquer que je suis à pied. Une fois descendue de cheval, une écuyère ressemble beaucoup à une autre femme, vous savez.
Oh, mon Dieu, ne me dites pas ça. Ne me dites surtout pas ça, je serai trop déçu. Je ne peux vous imaginer qu'à cheval.
Heureusement, il m'arrive de le quitter, monsieur le duc. Mes plus savantes arabesques font pâle figure à côté des vôtres. Or, il se trouve, tant pis si je vous ôte des illusions, il se trouve que j'aime la simplicité. Si nous en arrivions au fait.
Mais j'y arrive, mademoiselle, j'y arrive. C'est mon cœur que je dépose sous les pieds de votre cheval.
Oh, disons plus simplement que vous m'invitez à boire une bouteille de champagne.
Au bal, ma bille, oui. Il n'y a que l'avenue à traverser.
Quelle somme avez-vous parié avec vos amis du Jockey Club que vous entreriez cette nuit au bal Mabille avec Caroline Loyot à votre bras?
Oh, mon Dieu, est-elle intelligente? Oui, effectivement, au début, c'était un pari. Mais à présent, Caroline, je suis sincère. Oh,
tant pis pour vous. Vous connaissez ma phrase favorite. Je crèverai tout cheval qui me résistera.
Alors là, je ne vois pas le rapport. Je suis un homme.
Ah, pour moi, mon cher duc, l'homme n'est jamais que la plus noble conquête du cheval et de son écuyère.
En dehors de la piste de leurs exploits, les écuyères devaient en effet réussir quelques conquêtes mémorables. Mais si, quittant ta petite histoire, nous en revenions à ton histoire, cirque, mon ami, pour interroger une jeune femme qui, chaque soir au cirque d'hiver, perpétue la grande tradition. Elle s'appelle Caroli, c'est une petite fille bouglionne. Elle nous explique de quoi est faite l'amitié qui unit le cheval et l'écuyère.
Quand on achète un cheval, on ne commence pas tout de suite par se mettre sur son dos parce que c'est trop difficile pour lui d'abord, il n'est pas habitué à la personne, alors on s'habitue un à l'autre. Premièrement, alors il faut s'habituer, il faut le donner à manger, à le caresser un petit peu partout pour pas qu'il soit chatouilleux. Et puis ensuite, lui parler beaucoup... lui faire apprendre la voix et tout ça. Une fois qu'il est habitué à ça, alors tout doucement, nous commençons à se mettre sur son dos, à le faire aller sur la piste, vous savez, faire tourner un petit peu. Une fois qu'il a appris ça, tout doucement, nous commençons à faire un peu d'acrobatie dessus. Mais voilà qu'il y a des fois, il ne l'accepte pas tout de suite, alors ça dure encore assez longtemps. Et tout doucement, on y arrive, avec beaucoup de patience surtout, parce que les chevaux, il faut beaucoup de patience. Si on n'a pas la patience, eux n'ont pas non plus. Des fois, nous achetons des chevaux qui ne veulent pas du tout faire ce métier. Il n'y a rien à faire. Nous pouvons rester des ans et des ans là-dessus et il n'y a rien à faire. Alors, nous trouvons beaucoup de joie quand il réussit et on voit vraiment qu'il apprécie beaucoup ça. Et quand on se met à côté de lui et qu'on lui parle, on voit vraiment qu'il est content et tout ça. Alors, pour nous, c'est une joie énorme.
Puisque nous avons parlé du cirque d'été, il est bien normal d'évoquer à présent le cirque d'hiver. Le 11 décembre 1852, le cirque d'hiver ouvrait ses portes. Entre-temps, Louis-Napoléon étant passé des fonctions de président de la République à celles d'empereur, c'était vraiment la moindre des choses que Dejean nomma son établissement « Cirque Napoléon ». novembre 1859. Le cirque Napoléon connaît son soir de gloire grâce à Jules Léotard, le premier trapéziste volant dont on vous a déjà parlé. Le 10 octobre 1861, le cirque annexe la grande musique. Jules Badelou, fondateur de l'association qui porte son nom, popularise la musique d'Hector Berlioz sous le chapiteau du cirque. septembre 4, 1870. Le cirque Napoléon change prudemment et rapidement de nom. Il devient le cirque national. 3 ans plus tard, Victor Franconi, son directeur, lui trouve son appellation définitive, cirque d'hiver. Le cirque d'hiver que dirige aujourd'hui une dynastie fameuse, les Bouglione. Pourquoi ces nomades de tradition y ont-ils planté leur tente? Eh bien, c'est ce que nous explique Joseph Bouglione, le chef de la tribu.
C'est déjà très vieux. Mon arrière-grand-père a travaillé ici quand on a inauguré le cirque d'hiver, qui a été construit sous l'Empire. Vous voyez, ça date de très vieux.
En effet.
Et depuis presque toujours, chaque année, il y a toujours des membres de la famille qui venaient travailler au cirque d'hiver. Et il y a de ça environ une quarantaine d'années à peu près, le cirque a fait faillite et ça a été repris par mon père. J'ai toujours fait du cirque, j'ai tout fait. Dans le cirque, j'ai fait tous les numéros, j'ai fait le trapézie, j'ai fait surtout dompteur. Ma spécialité, c'était dompteur de fauves. La piste ne manque pas parce que je suis toujours dans la piste.
Pendant toute la période qui s'étend jusqu'à la Première Guerre mondiale, le cirque d'hiver donne de grands spectacles en forme de pantomime. Parmi les auteurs de ces spectacles, un nom revient souvent, celui de Gabriel Astruc, qui se ruinera un peu plus tard de la plus élégante des façons en faisant édifier le Théâtre des Champs-Élysées. Gabriel Astruc signe ses spectacles de cirque d'un anagramme facile à percer, Surtac. Trop facile même, et qui va lui valoir de sérieux ennuis avec le ministre de l'Instruction publique.
Monsieur Astruc, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes également un critique d'art éminent et un auteur dramatique apprécié. Vous avez d'autre part sollicité la faveur de faire bâtir et de diriger un théâtre sur les Champs-Élysées.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de faire l'apologie de ma modeste carrière.
Oui, mais hélas, pourquoi faut-il que cette carrière ne se limite pas à ses chemins officiels et qu'elle aille se perdre dans les chemins tortueux qui mènent aux baraques des saltimbanques? Pourquoi faut-il qu'Astruc et Surtac ne fassent qu'un seul et même individu?
Monsieur le ministre, Astruc ne rougit point de Surtac. Je dirais même plus, il en est fier. Plus fier encore que d'être auteur dramatique, critique d'art, futur directeur de théâtre et même chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur, vous mettez là un comble à ma stupéfaction. Comment peut-on être fier de fréquenter des saltimbanques?
Monsieur le ministre, êtes-vous déjà allé au cirque?
Monsieur, je ne vous permets pas.
Mais faites-moi la faveur de répondre à ma question. Êtes-vous déjà allé au cirque?
Quand j'étais enfant, peut-être, avec mon père.
Vous voyez, monsieur, votre père n'avait pas dédaigné de se commettre au cirque. Quand on a senti passer sur soi le souffle de la magie, il n'est plus possible de retomber sur terre. Ou bien alors, on s'y ennuie vraiment trop. Astruc s'ennuyait parfois dans ses fonctions officielles. Surtac est arrivé à temps pour le sauver. Sans Surtac, que resterait-il d'Astruc? Rien qu'un pauvre homme dont les honneurs et les décorations auraient rongé le talent et l'enthousiasme. Si vous tenez à moi, remerciez donc Surtac, monsieur le ministre.
Ah, il faut aussi que je remercie.
Vous faites mieux encore, tenez. Accompagnez-le un soir au cirque. La piste vaut le déplacement et les coulisses peut-être plus encore.
Tiens, tiens. Mais croyez-vous que dans ma situation...
Incognito, monsieur le ministre, incognito. Le cirque est un bal masqué. Et venons-en maintenant à ce héros qui a hérité son art du gladiateur de l'Antiquité. Lorsque le Belvaire entre en piste, oh cirque mon ami, il passe sur ton arène un immense frémissement. Des images héroïques et sanglantes apparaissent devant nos yeux, des images qui datent du temps de la préhistoire, car les gestes du Belvaire, ce sont ceux de l'homme de Cro-Magnon ou de Néandertal, qui entreprit de soumettre la bête et mena contre elle le premier combat à main nue. Les gestes du Belvaire, ce sont aussi ceux du premier chrétien, qui s'immolait à sa foi et affrontait le fauve sans peur ni reproche. C'est de celui-ci comme de celui-là que le Belluaire a hérité sa noblesse et qu'il t'en a fait don. Oh, cirque, mon ami. Saint-Louis, dont l'esprit de justice était égal pour tous, décida que les Romani, dresseurs de singes, seraient exemptés de tout péage à la condition de faire exécuter quelques tours à leurs pensionnaires dans les villes qu'ils traversaient. De là l'expression bien connue « payer en monnaie de singe ». Plus tard, Louis XI se faisait apporter à Plessis-les-Tours de petits cochons vêtus en gentilshommes qui dansaient au rythme de la flûte d'un bohémien. Louis XIV lui-même invita un lion à Fontainebleau et se délecta fort, selon la chronique du temps, de voir son dresseur introduire sa tête dans la gueule du fauve. Il y a 2 ou 3 siècles, l'exhibition des fauves constituait donc une attraction exceptionnelle. Mais au siècle dernier, ce spectacle allait devenir pratique courante grâce, pour une bonne partie, à un jeune Marseillais dont la hardiesse n'égalait que la faconde. Il s'appelait Henri Martin. Son père, ancien condisciple de Masséna, tient commerce de pâtes alimentaires. Mais le macaroni n'exerce qu'une médiocre attraction sur l'enfant. À 9 ans, il s'engage dans le cirque Guillaume et en quelques années devient un merveilleux écuyer. Il est même bientôt son propre directeur et voyage à travers l'Allemagne. C'est à Nuremberg, à la veille de Noël 1819, qu'il rencontre la double aventure de sa vie, car Henri Martin va devenir dompteur par amour.
Mademoiselle Gertrude, bonsoir.
Oh, c'est vous, monsieur Henri? Alors, comment s'annonce la recette pour ce soir?
Pas fameuse, mademoiselle Gertrude, pas fameuse. C'est à croire que les Bavarois n'aiment pas les chevaux.
En revanche, ils doivent aimer les fauves. Oh. Notre ménagerie ne désemplit pas. Mon père se frotte les mains. Lui, il n'y a que ses écus qui comptent.
Je ne suis pas comme lui, moi. Je me moque de l'argent. Je donnerais tout l'or du monde pour l'or de vos cheveux.
Oh, monsieur Henri, il ne faut pas me dire des choses pareilles. Elle risquerait de me tourner la tête.
Croyez-vous que la mienne ne soit point à l'envers depuis que je vous ai rencontré? Gertrude, Gertrude, pour vous, j'oublie tout, mes chevaux, mon métier. Je vous aime, Gertrude.
Moi aussi. Je vous aime, Henri. Mais jamais mon père ne consentira à ce que j'épouse un forain sans ressources.
Ah, j'en étais sûr, hein? Encore avec ce vaurien de Marseillais.
Minerva Laken? À tout autre que vous, ces paroles seraient rentrées dans la gorge. Mais comme vous serez bientôt mon beau-père, je tiens à ce que vous gardiez bon visage. Je préfère vous montrer ce dont je suis capable. C'est bien là, à tir, votre tigre le plus féroce.
Pour sûr, mais qu'est-ce que vous voulez faire une fois?
Ouvrez-moi la porte de la cage. Vous allez voir comment les Marseillais apprivoisent les tigres.
Henri, c'est de la folie. Vous n'avez jamais eu affaire à un fauve.
Mais
à
oui,
qui va vous dévorer?
Tant pis, pour l'amour de vous, je veux bien servir de pâture à tous les tigres de la jungle.
Un mois plus tard, le tigre attire et Henri sont les meilleurs amis du monde. Le jeune homme a trouvé sa voie. Il a trouvé aussi la femme de sa vie, car, bien entendu, Henri épouse Gertrude. Ainsi commencée, la carrière d'Henri Martin va se poursuivre brillamment. Après avoir semé de ses exploits toutes les villes d'Europe, il ne lui reste plus qu'à recevoir la consécration suprême, celle qui ne s'obtient qu'à Paris. C'est chose faite au mois de septembre 1829. Quand le public voit Henri Martin se reposer entre les pattes du tigre Attire ou des lions Néron et Cobourg, il ne lui ménage pas ses bravos. Les grands du royaume l'accueillent, la duchesse de Berry en fait son zoologiste officiel et Balzac, venu un soir par curiosité, ne quitte plus la ménagerie de la Porte Saint-Denis où Martin s'est installé.
Martin, mon cher, je vous devrai beaucoup de reconnaissance, car vous m'avez enseigné bien des choses.
Oh, monsieur de Balzac, comment un ignorant comme moi, qui quittait l'école à 9 ans, peut-il apprendre quoi que ce soit à un savant dont la grosse tête est pleine de mots que je ne comprends même pas?
L'école de la vie, mon cher Martin. L'enseignement par l'exemple. Ce qui manque le plus aux penseurs rassis desséchés derrière leur bureau. Par exemple, quand vous commandez à votre tigre de venir chercher le morceau de sucre que vous tenez entre vos lèvres.
Oh, ce n'est rien, ça, monsieur de Balzac. Ce n'est que du courage.
Eh ben voilà. Vous avez dit le mot, ce n'est que du courage. C'est un spectacle fascinant, monsieur Martin, que votre courage. C'est ce spectacle qui m'a instruit.
Bon, c'est pourtant bien simple, le courage. Ça vient tout seul.
Eh oui, ça vient tout seul. Mais si ça ne vient pas tout seul, impossible de le faire venir par d'autres moyens. Tenez, Martin, savez-vous ce que je fais chaque soir en vous regardant?
Eh bien, tenez, je me le demande souvent. Vous avez tellement mieux à faire ailleurs.
J'essaie de saisir au vol l'instant fugace où votre courage se concrétise et devient une vérité humaine.
Et alors?
Que voulez-vous en faire de ce courage? Vous autres, les écrivains, vous ne dressez pas les lions?
Non. Nous dressons les hommes et les femmes que nous mettons dans nos livres et ce n'est pas si facile. Ce que je voudrais faire de votre courage, en insuffler un peu à un personnage qui me trotte dans la tête et qui sera le personnage central de toute mon œuvre.
Quel genre, votre homme?
Il a beaucoup d'appétit, pas mal d'audace et peu de scrupules.
Ouais. En somme, tout ce qu'il faut pour faire un dompteur.
Un dompteur, Rastignac. Mais vous avez sans doute raison, Martin. Mais pour lui, la jungle, c'est Paris.
Avec le tigre Attire, les lions Néron et Cobourg et tous ces autres animaux, Henri Martin interprète au Cirque Olympique une pantomime fameuse, les lions de Misère. Cependant, le lion Cobourg disparaît, victime de son esprit facétieux. Il avait pris l'habitude de cacher les pantoufles de son maître. Un soir, pour mieux les dissimuler, il les avala, mais ne put les digérer. Un peu plus tard, c'est Néron qui se tue, en tombant par le trou du souffleur. Enfin, en 1836, le tigre Attire meurt de sa belle mort à 21 ans. Alors, un an plus tard, Henri Martin décide de se retirer en pleine gloire. Dans le village natal de sa femme, en Hollande, il se fait bâtir une belle maison et les seuls animaux qu'il attrape désormais, ce sont les brochets de la rivière. Il vivra encore près d'un demi-siècle et ne s'éteindra qu'en 1882, à l'âge de 89 ans. Véritable Cincinnatus du cirque. Nous avons longuement évoqué Henri Martin, rendant à travers lui un hommage à tous les dresseurs dont les exploits ont jonché tes pistes. Oh, cirque, mon ami! En parlant de Martin, nous songions à Van Hamburg, à Carter, à Huguet, à Croquette, à la dynastie des Pesons. Nous pensions surtout à Alfred Court, dont l'audace a surpassé peut-être celle d'Henri Martin. Lui aussi, après avoir surmonté 1000 périls, connaît une longévité étonnante. Et nul n'est plus qualifié pour évoquer la légende des Belvères.
C'était un jeune Lyonnais nommé Molière qui est venu me rejoindre en Espagne. Je l'ai fait répéter 7 à 8 jours mon numéro de tigre. C'était déjà un dompteur, c'était pas un dompteur fini, n'est-ce pas, mais c'était un bon petit dompteur déjà. Et pour ce que nous appelons passer la main, vous comprenez, on rentre à deux dans la cage pour passer la main et une fois qu'il a pris les mêmes positions, les mêmes coups de fouet, les mêmes commandes, n'est-ce pas, il rentre tout seul. On a envoyé les 7 tigres dans la cage et j'ai dit à Molière, méfie-toi de Bengali et de Brahma parce qu'il y avait 2 tigres qui étaient un petit peu dangereux là-dedans et surtout des faux, très faux. Il est rentré, sa première pyramide a très bien marché, il a remis ses tigres en place sur ses tabourets. À ce moment-là, j'ai vu que ça allait bien, n'est-ce pas, j'ai enlevé mes yeux sur lui pour regarder quelque chose là, à côté. Et quand j'ai levé les yeux, ça a été la question de 3 ou 4 secondes, j'ai vu sur mon bengali, qui était un très beau tigre sibérien, qui descendait de son tabouret comme un chat après une souris. Je n'ai qu'eu le temps de crier « Attention Bengali !» Mais le temps que j'ai crié « Attention Bengali !», Bengali avait sauté sur mon lit, il avait attrapé à pleines jambes par derrière. Et il a emmené au milieu des sorties. Je suis rentré immédiatement, vous comprenez? Mais moi, j'avais rien à la main. Et ce pauvre Molière, il a été pris de panique. Il aurait pu peut-être être sauvé, vous comprenez? Il était fortement blessé à la jambe, mais il aurait pu. Il avait encore son fouet et sa canne dans les mains. Quand je suis rentré dans la cage, j'ai attrapé à deux mains ce qu'on appelle un tabouret, Vous savez, c'est un bruit où s'assoient les tigres. Et je jetais ça sur la tête à Bengali, je lui ai fait lâcher prise. Il a lâché prise. Mais il y a une tigresse qui m'en voulait à moi, une Brahma. D'ailleurs, elle m'a même attrapé 3-4 ans après, très fortement, cette tigresse-là. Et je me méfiais de cette tigresse. Cette tigresse m'a sauté dessus. J'avais rien dans les mains pour me défendre. J'ai dû reculer, comprenez, pour reprendre un autre tabouret. Du temps que j'ai fait cette manœuvre, ce mouvement de recul, Molière aurait pu se relever, et même sur une jambe, se tourner et faire face au tigre. Mais il est parti en courant vers moi et il m'a dit « Monsieur Alfred, sauvez-moi ». Bengali a vu échapper sa proie, il lui a sauté par-dessus, il a flanqué un coup de pas dans la tête, ils sont tombés dans mes jambes. Un autre coup de tabouret, je l'ai fait lâcher, mais il lui avait transpercé le crâne de part en part avec les dents. Ça a été, ça évidemment, vous savez, j'ai jamais, vous savez, peur, on ne peut pas dire qu'on n'a pas peur, on ne sait pas bien ce que c'est que la peur, n'est-ce pas? Mais enfin, des fois j'ai eu peur quand je n'étais pas dans la cage, vous comprenez? Parce que quand j'avais vu Molière tué, massacré comme ça, quand je l'ai vu tête rasée, j'ai vu mourir ce pauvre garçon, n'est-ce pas? Ça m'avait impressionné. Malgré tout, j'ai dit, il faut travailler, comme on dit en Amérique, the show must go on, le spectacle doit continuer. Et j'ai travaillé en matinée. Et j'ai travaillé avec les tigres, il n'y avait pas d'autre dompteur pour les prendre. Je me suis dit, il s'agit de corriger Bengali. Mais si je rentre dans la cage et que je vais passer une correction à Bengali, il ne comprend jamais pourquoi. Lui ne se rend pas compte qu'il a tué un dompteur, vous comprenez? Alors, j'ai eu un plan qui a très bien réussi. J'ai commis exactement la même faute que Molière a commis, vous comprenez? Après avoir passé la première série, pour aller mettre ce que nous appelons nos réquisites, le matériel en place, n'est-ce pas? J'ai tourné le dos carrément à Bengali, chose que je ne faisais jamais moi-même, et j'avais dit à Molière de faire attention, de ne pas le faire. Là, j'ai tourné le dos carrément à Bengali, mais pas la tête, je regardais derrière. Bengali, qui avait réussi son coup le matin, il m'a ressauté dessus. Il ne m'a pas attrapé. Mais alors là, je lui ai passé une de ses décoctions. Et une rousse, heureusement que c'était en Espagne, ça aurait été en Angleterre, on m'aurait mis en prison. Mais il avait une tête, il ne voyait plus. Il a eu une pétouche formidable, ce tigre-là. Jamais plus il n'a bougé, 8 mois. J'ai travaillé pendant 8 mois, il n'a jamais plus bougé. Et puis, le numéro a repassé dans les mains d'un autre dompteur. Première fois qu'il est rentré tout seul, 8 mois après, Bengali lui a sauté dessus. Ils l'ont boulotté dans la cage.
Par un étrange paradoxe, les gens du voyage qui côtoient le danger chaque jour se refusent à le prévoir. D'autres, heureusement, y pensent pour eux. Louis Merlin, par ailleurs homme de radio fameux et animateur infatigable de La Piste, définit la noble mission qu'elle s'est donnée.
La Piste, c'est une déjà très vieille et très belle histoire. Elle date de 40 ans. Il y a 40 ans, un homme éminent, l'homme qui a fait venir pour la première fois en France les ballets russes et qui a construit le théâtre des Champs-Élysées, sont des titres de gloire. Gabriel Astruc était en même temps un très grand ami du cirque et des journalistes spécialisés dans le cirque lui avaient dit que les gens de piste étaient, disons, déshérités. Car s'il y avait Risso-Rangis pour les artistes de café-concert, s'il y avait Pont-aux-Dames pour les comédiens, il n'y avait rien du tout pour les artistes de cirque et qu'ils avaient besoin d'être secourus. D'où une association secours aux artistes de cirque, le nom La Piste, il ne pouvait pas y en avoir de plus beau, et un premier président qui était Alphonse Rancy, qui est une grande noblesse du cirque. On pourrait se dire que depuis 40 ans, il y a eu tellement de changements sur le plan social que les artistes de cirque aujourd'hui sont protégés comme tous les travailleurs. C'est vrai, bien sûr, en principe, mais ces gens du voyage sont véritablement des gens du voyage, si bien que un artiste qui aura été 3 semaines au cirque d'hiver, qui sera ensuite parti en Angleterre, qui aura fait une tournée dans un chapiteau allemand, qui reviendra l'an prochain à Paris, Pratiquement, il n'est pas en règle avec la sécurité sociale, si bien que s'il lui arrive un pépin, personne ne l'aidera. Alors, nous sommes là pour ça.
À l'occasion du gala de la piste, il vous arrive à vous-même, Louis Merlin, de mettre le fouet à la pâte.
Ou la pâte au fouet, qui s'appelle d'ailleurs une chambrière. Et en effet, je considère que tous les artistes de cirque qui viennent du monde entier, c'est vrai maintenant, au gala de la piste, pour offrir leur talent à ceux de leurs camarades qui sont moins heureux, je pense que moi j'ai un devoir vis-à-vis de ces gens qui nous aident tellement, même si c'est pour leurs camarades, c'est de ne pas seulement tendre la main, mais également, comme vous dites, la mettre à la pâte. Ce qui est passionnant, c'est non seulement de présenter un numéro qu'un autre a dressé et bien dressé, bien sûr, si les bêtes n'étaient pas parfaitement dressées, je ne pourrais pas me permettre de les présenter. Et il faut surtout, entre nous, que je ne les gêne pas dans leur routine habituelle, et puis surtout d'abord que je me fasse bien voir d'elles, qu'elles m'acceptent, les bêtes, c'est très important. Mais il se passe régulièrement ceci, c'est que la première répétition, quand vous avez bien compris ce qu'est le numéro, que votre maître écuyer vous a expliqué où vous mettre, comment ne pas barrer les chevaux, quels gestes, quels appels faire, la première répétition marche admirablement. Et puis, le soir ou dans la nuit, je ne sais pas comment ça se passe, le cheval de tête, qui est un peu moins bête, explique à ceux qui viennent derrière que ce n'est pas le vrai qui était là. Alors, le lendemain, vous avez la seconde répétition et vous vous retrouvez au milieu d'une pagaille terrible. Quant au chimpanzé, Capellini, qui m'avait prêté son groupe, m'avait dit, là, il faut que vous veniez vivre un petit peu avec eux, les voir, et où ils vous adopteront ou ils ne vous adopteront pas. Vous savez que les chimpanzés sont très friands d'oreilles en particulier. Et beaucoup de dresseurs de chimpanzés ont les lobes d'oreilles qui sont un peu diminués. Alors j'ai donc passé mon examen auprès des quatre chimpanzés de Capellani. Ils jouaient dans leur singerie. Moi j'étais avec Capellani en train de bavarder, surtout en ayant l'air de ne pas faire attention à eux. Et à un moment donné, ils ont fait une conférence au sommet, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans un coin, tous les quatre, chacun avec les mains sur les épaules de l'autre, et ils se sont racontés des choses, je ne savais pas lesquelles. Il m'a dit, faites attention là, parce qu'ils sont en train de discuter de vous. Et ils se sont séparés d'un coup, et je me suis retrouvé les quatre fers en l'air par ces quatre gaillards qui m'avaient pris aux pattes, et qui après ont poussé des cris de joie en sautant sur leurs quatre pattes et mains. Alors Capellani m'a dit, maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes adopté, vous êtes un copain.
Il faut toutes sortes de gens pour faire un monde. Le tien, cirque mon ami, n'échappe pas à cette règle. Tu as tes artisans de génie qui payent de leur chair une gloire plus ou moins éphémère. Tu as aussi tes industriels, tes souverains. Le plus célèbre d'entre eux s'est appelé Barnum. Mais si, lorsque Barnum est mort à plus de 80 ans, en 1891, il possédait au Madison Square Garden de New York le plus grand cirque du monde, si sa troupe se déplaçait dans un train spécial composé de 60 wagons, si son chapiteau pouvait accueillir 20 000 spectateurs, Barnum a débuté dans la rue, en plein vent, comme les charlatans du Moyen-Âge. D'ailleurs, il ne s'est jamais défendu de descendre en ligne directe des charlatans.
Le bluff est le plus solide des piédestals. À condition d'en user au moment opportun, vous pouvez construire avec ce matériau le plus sensationnel des cirques, comme le plus vaste des châteaux. Mais il faut être capable ensuite de faire ses preuves.
Appliquant ce principe à sa propre existence, Barnum va donc partir de rien. En 1840, nous le trouvons dans un parc d'attractions de Washington.
Ladies and gentlemen, dans cette tente vous attend un spectacle exceptionnel et historique. Joyce S., la propre nourrice du général Washington. Elle guida les premiers pas du héros de notre indépendance et demeura auprès de lui jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, elle est âgée de 160 ans. Mais ses souvenirs sont tellement précis qu'elle peut vous dire à quel âge le général Washington perça sa première incisive. Cette attraction sensationnelle vous est offerte par Barnum pour 25 cents seulement.
Barnum, c'est un menteur! Joyce F. a tout juste 90 ans! Et si elle a vu Washington, c'est uniquement sur les pièces de monnaie!
Ne l'écoutez pas, ladies and gentlemen! Ce personnage n'est autre que Monsieur Boone, un de mes concurrents que mon succès irrite. Je fais le serment, devant vous tous, de lui remettre une somme de $10,000 s'il peut apporter la preuve que Joyce Hest n'est pas réellement âgé de 160 ans.
Barnum, par la suite, découvrit Tom Pouce, le nain fameux. Son cirque devint le plus colossal et lui l'un des hommes les plus riches du monde. Mais il ne perdit pas pour autant son sens du bluff. En 1889, presque octogénaire, il débarquait à Londres, qu'il avait déjà vu 45 ans plus tôt, dans un équipage beaucoup moins fastueux, en compagnie du seul Tom Pouce. Cette fois, la vieille reine Victoria tint à le recevoir à Buckingham Palace et le prince de Galles, le futur Édouard VII, assista à plusieurs représentations. À la fin de l'une d'elles, il ne put retenir son admiration.
Cher monsieur Barnum, vous avez prouvé votre estime pour l'Angleterre en lui offrant un spectacle incomparable. Tout à fait entre nous, combien vous coûte votre voyage à Londres ?
Oh, Altesse, pas grand-chose en comparaison de l'honneur qu'il m'apporte. Pas plus de 100 000 livres sterling.
Monsieur Barnum, vous avez toujours eu la réputation d'exagérer. Je pense donc que vous n'avez dépensé que la moitié de cette somme. Ce n'est pas gentil de ne pas me traiter en ami.
Monseigneur, si je n'avais pas pensé que votre Altesse était un ami, c'est 200 000 livres que j'aurais dit.
En réalité, Barnum n'avait dépensé que 25 000 livres. Et quand il s'embarqua quelques jours plus tard pour l'Amérique, l'évêque de Westminster, qui était un amateur passionné de cirque, tint à lui dire adieu, et ce fut l'occasion pour Barnum d'un dernier bluff suprême.
Monsieur Barnum, nous sommes fort âgés, vous et moi. Nous ne nous reverrons sans doute qu'au ciel.
Eh oui, monseigneur, si toutefois vous y êtes admis.
Le cirque a planté son drapeau debout sur la place publique. Il flotte au-dessus des bravos, mêlé de silence tragique. Trois éléphants font du vélo, échangent de vitesse en musique, sous l'œil endormi des badauds, qui attendent que les clowns rappliquent.
Les clowns, les claques, les cris, les pleurs,
la petite flaque du projecteur qui sait tout le programme par cœur.
Dehors, il y a toujours les enfants au sourire mélancolique, mais dans le cœur de ces enfants, leur a planté son grand cirque.
Cirque, mon ami, nous voici parvenus au terme de ce récit. Les histoires que nous avons choisi de conter ne constituent qu'une infime partie de ton livre d'or. Mais telles qu'elles se présentent, elles sont pour nous de précieuses leçons. Leçons de courage, de loyauté, de solidarité, donnée par des hommes et des femmes qui ont choisi le plus noble chemin, celui où l'on s'élève au-dessus de soi-même. Et si souvent nous sommes allés chercher dans ton passé des exemples symboliques, cirque, mon ami, tu poursuis ta route et tu marches d'un pas décidé vers l'avenir. Cet avenir qu'évoque Jean Richard, amateur de cirque au sens le plus élevé du terme.
Pourquoi notre cirque français vivrait-il pas, étant donné qu'ici, on fait un triomphe à ce que je viens de voir ce soir, car on prend un malin plaisir à dire que le cirque en France est foutu, tu vois, c'est pas vrai. Moi, je vous jure que je vous fais un spectacle français de premier ordre demain. Alors, on sait plus exactement très bien. En Allemagne, le cirque, ma foi, le cirque allait dans les villes allemandes. Vous verrez monter Krohn aussi grand qu'il n'a jamais été, Althoff, Sarrazani, Bush, Williams, tous les cirques allemands florissants. Eros, un cirque qui vient de naître il y a 2 ans. qui est sans doute le plus beau cirque du monde actuel. Aller en Suisse, allez voir le plus beau spectacle de cirque qu'on peut voir au monde, qui est le cirque CNI. Aller en Espagne, vous verrez Americano. Les gens de cirque en France ne veulent pas comprendre qu'ils sont coupables d'erreurs depuis énormément d'années. Ils ont commencé à se battre à coups de mâts. Alors c'est ce qui est nouveau d'avoir ces espèces de chapiteaux insensés à quatre mâts en long, où on voit rien du tout, qui manque totalement d'intimité. Aller en Allemagne ou en Suisse, vous verrez les CNI ou les Krone, des merveilleux quatre mâts ronds, où on voit bien. La grandeur d'un cirque n'a rien à voir avec la qualité de son spectacle. Si vous montez à deux mâts en France, les gens boudent en disant « Oh, c'est un petit cirque ». C'est merveilleux comme histoire. Après, ils sont recouverts leurs affiches. C'est amusant. Ça coûte des centaines de mille francs par jour. Et qu'est-ce qui fait les frais de ces centaines de mille francs par jour? C'est le spectacle. Allez donc en Suisse, vous allez voir des petites affichettes Circus CNI. Il n'a pas besoin de recouvrir les murs.
Mais l'avenir, c'est peut-être aussi cette école du cirque à laquelle Dominique Mauclerc consacre ses efforts.
Oui, je pense que toute solution d'avenir, toute solution d'évolution du cirque, car il faut que le cirque évolue, tout en gardant d'ailleurs ses traditions, passe par la création d'une école du cirque. Je vous insiste sur une chose, il est indispensable, il ne faut pas faire une école de cirque si on n'a pas rétabli un certain nombre de règles de cette profession, c'est-à-dire si on n'est pas sûr d'assurer du travail aux élèves, car ça serait criminel de former des jeunes dans un métier s'ils n'ont pas les débouchés. Donc je crois que tout ça est lié. Il faut faire une école, c'est sûr, si on veut avoir de très grands numéros, bien que à l'heure actuelle en France et d'ailleurs dans les pays européens occidentaux, il y a des numéros au moins aussi bons que ceux des écoles soviétiques ou des écoles au-delà du rideau de fer. Mais si on veut arriver à intéresser les jeunes, il faut une école. Et on essaye à l'heure actuelle de pouvoir non pas seulement créer une école du cirque, mais essayer de créer un office national du cirque. Cet office, je le dis tout de suite, ne sera pas contre les professionnels. Au contraire, il faut que les professionnels soient directement associés à cet office. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, encore pendant quelques temps, il nous faut voir les ministères, vraiment entreprendre les papiers, les démarches, qui ne sont pas d'ailleurs les choses, le fort des gens du cirque. Faire des papiers, faire des démarches, ils n'aiment pas ça. Alors on va le faire pour eux. Et quand on aura, tout cela sera bien mûr, à ce moment-là, nous verrons les professionnels, on leur proposera une solution, elle sera d'ailleurs certainement adaptée à leurs besoins, et j'espère vraiment qu'à partir de l'année prochaine, il y aura un office et bien sûr une école.
C'était Les leçons du cirque, une évocation de Claude Dufresne, présentée par Jean de Sailly, avec Maurice Chevitte, Julien Guillemard, Robert Marcy, Pierre Marteville, avec Annie Deschamps et Claude Morin, et la participation de Maître Maurice Garçon et Marcel Achard de l'Académie française, Louis Merlin, Jean Richard, Henri Rancy, Joseph Bouglione, Alfred Cour, Dominique Mauclerc, du clown Pipo, des Gemini et de Caroli. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Jean-Pierre Yunker. Assistante de production, Claude Nattier. Réalisation, Claude Dupont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 novembre 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.